France Inter, franceinter.com.
Bonjour, aujourd'hui un sujet de circonstance, une histoire de Noël.
Votre nom ?
Saint-Nicolas, Santa Claus, Père Noël, Babbo Natale, Père Nicole.
Ans d'histoire. Que l'on soit croyant ou non, que ce jour-là on célèbre ou non la naissance du Christ, Noël est devenu aujourd'hui une fête universelle dont les origines sont plus anciennes que l'on croit. Elle remonte à la fête païenne du solstice d'hiver lorsque, dans l'Antiquité, les Romains saluaient l'allongement des jours en célébrant la fête des Saturnales. On y échangeait des vœux et des cadeaux, et on abolissait pour un jour les différences sociales. Il n'y avait plus ni riches, ni pauvres, ni maîtres, ni esclaves. En transformant la fête païenne des Saturnales en fête de la naissance de Jésus, les chrétiens ont repris cette tradition. Et si aujourd'hui Noël n'est plus seulement une fête religieuse, elle reste ce moment unique où, comme à l'époque des Romains, les hommes oublient tout ce qui les distingue, les sépare et les oppose, même la guerre. Comme le 24 décembre 1914, lorsque des Allemands et des Français sont sortis de leurs tranchées, non pour se battre, mais pour célébrer Noël ensemble.
Mon lieutenant, il se passe quelque chose de bizarre en face.
C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien foutre?
Ils ont peut-être marre les Allemands. Ça se trouve, ils veulent se rendre.
Ce soir, des hommes que tout oppose ont eu envie de se rassembler, comme on se rapproche d'un feu en plein hiver. Peut-être pour oublier un peu la guerre.
Ma chère mère, ma chère sœur, nous avons marché jusqu'aux tranchées comme des Pères Noël avec des paquets. Tout était calme. Aucun coup de feu. Peu de neige. Nous avons mis un petit arbre de Noël dans notre tranchée abri. Et nous avons placé un second arbre illuminé sur le remblai. Puis nous nous sommes mis à chanter nos vieux Noël. Stille Nacht, Heilige Nacht.
Marie-France Noël, bonjour.
Bonjour.
Alors, votre nom vous prédestinait bien sûr à écrire cette très jolie histoire de Noël qui a été publiée aux éditions Ouest France, l'histoire d'une fête qui pour les chrétiens célèbre la naissance du Christ, mais qui existait déjà bien avant dans l'Antiquité, sous un autre nom, pour célébrer autre chose à la même date que Noël, c'était les Saturnales.
Alors, les Saturnales ne sont pas directement liées, évidemment, au culte chrétien, mais en tout cas, il y avait déjà, dans le monde antique, un certain nombre de rituels qui étaient liés, évidemment, à la fête du solstice d'hiver. Et si l'Église chrétienne a choisi, elle aussi, la date du 25 décembre pour officialiser la naissance de Jésus, c'est-à-dire la venue sur la terre d'un Dieu qui est fait homme, cette date n'est pas totalement faite au hasard. Il fallait absolument, puisque la religion romaine antique disparaissait au profit de la religion chrétienne, il fallait absolument faire oublier tout cela. Et il est évident que, le peuple était très très attaché aux Saturnales.
On faisait à peu près la même chose que dans le Noël chrétien. On échange des cadeaux, on échange des vœux.
On échangeait des cadeaux, on échangeait des vœux. Il fallait également...
On bouscule l'ordre social aussi.
On bousculait l'ordre social. Il fallait également que les maisons soient propres. Beaucoup de petites choses que l'on retrouve dans, la tradition populaire. Mais il était bien dire qu'il n'y avait pas que les Saturnales qui étaient impliquées, je dirais, dans ce renouveau ou dans cette arrivée de la chrétienté. Il y avait également le culte de Mithra, qui était beaucoup plus dangereux pour l'Église naissante. Parce que Mithra avait été vraiment une...
culte persan.
C'est un culte qui est origine de Perse, qui est amené et apporté par les légions romaines et qui rencontre aussi très très vite un grand succès populaire. Et on voit qu'il y a beaucoup de points de correspondance avec le culte naissant de la nativité, c'est-à-dire que Mithra est lui-même souvent représenté comme un poupon né dans une grotte. Il est également le sol invictus, c'est-à-dire le soleil invaincu, qui sera également un des qualificatifs de Jésus. Et il est évident que tout cela gêne un petit peu l'Église naissante.
Alors l'Église naissante pour laquelle Noël eh bien, correspond à la naissance du Christ à Bethléem, un reportage de France Inter en 1977 dans la grotte de la Nativité.
Le cœur de Noël, c'est donc Bethléem, et le cœur de Bethléem, la grotte de la Nativité. Elle est toute petite, sur les murs de lourdes tentures couleur rouille et bleu nuit, et, tombant du plafond, des chandeliers d'or et d'argent. L'encens pique un peu les yeux, les bougies se reflètent sur les dalles de marbre blanc. 13 marches pour y accéder, suivez le guide, en l'occurrence frère Jean-Marie Chartrain, un solide Québécois de Montréal, le sacristain des lieux.
À l'hôtel en face de nous, où est l'étoile, n'est-ce pas? C'est l'endroit exact, selon la tradition toujours, n'est-ce pas? Où le Christ est né.
C'est toi qui tiens l'auberge?
Je n'ai plus de chambre.
Je t'en prie, ce n'est pas pour moi. C'est pour ma femme. Elle va avoir un enfant.
Ah, on pourrait peut-être t'offrir un coin dans l'étable.
Natus in Bethléem, le Christ est né à Bethléem. C'est un chant du XVIe siècle célébrant donc la naissance du Christ, de Jésus, dont on ignore totalement la date. En fait, la date du 25 décembre a été arbitrairement choisie, Marie-France Noël.
Elle a été arbitrairement choisie.
Elle n'est pas dans les évangiles.
Elle n'est absolument pas dans les évangiles, mais simplement, effectivement, encore une fois, il fallait vraiment se rapprocher, je dirais, des autres traditions religieuses et surtout faire en sorte que ce Messie qui arrivait sur Terre, qui allait devenir effectivement la lumière du monde, soit totalement lié au solstice d'hiver qui lui était vraiment quelque chose qui était très très ancré dans les populations pré-chrétiennes.
Mais ce qu'il y a d'intéressant, d'extraordinaire, même c'est que, au fond, le premier Noël, c'est pas la naissance du Christ, un 25 décembre, puisqu'on ignore la date exacte, mais il a fallu attendre plusieurs siècles avant qu'on célèbre, que les chrétiens célèbrent Noël. Avant, ils attachaient plus d'importance, vous le rappelez, par exemple au jour de Pâques.
Pâques a toujours été la très grande fête de la chrétienté. Noël n'est pas aussi important que cela et c'est pour cela que pendant très longtemps, Noël est une fête religieuse parmi d'autres mais ne prend pas du tout le caractère que nous lui connaissons aujourd'hui.
Et on célèbre Noël le dimanche en fait, tous les dimanches.
Absolument. Et on célèbre la résurrection également tous les dimanches. Cela fait partie effectivement de la tradition de la messe. Ce qui est vraiment important, c'est qu'à partir du 4e siècle, l'Église va instaurer un véritable culte de la nativité. Culte de la nativité qui va se traduire sous plusieurs formes. D'abord parce qu'il y aura effectivement un certain nombre de rituels. Il y aura l'établissement des trois messes qui se sont un petit peu transformées en trois messes basses dans notre imaginaire collectif avec le conte de Daudet. Mais il est évident que tout cela se met en place très, très progressivement. Il ne faut quand même pas oublier que l'Europe n'a pas été christianisée du jour au lendemain. Tout cela se met en place très lentement.
Il fallait s'adapter à d'autres cultes.
Il est évident que dans le nord de l'Europe, il y avait aussi d'autres traditions qui étaient pré-chrétiennes également, qui se sont rencontrées également. Et tout cela a fini par donner un christianisme qui est relativement consensuel aujourd'hui en Europe.
Et qui célèbre donc Noël le 25 décembre et même avant. ça commence en fait le 27 novembre avec ce qu'on appelle les dimanches de l'Avent, A-V-E-N-T.
Absolument, puisque là, c'est tout un temps de préparation à la célébration de la nativité. C'est donc un moment où les gens vont progressivement s'habituer, se préparer moralement, physiquement également. Il ne faut pas oublier que dans la tradition chrétienne, il y a toujours le respect du carême et que Noël est un temps de carême. Donc, quand on fait des réveillons un petit peu pantagruéliques aujourd'hui, on n'est plus du tout dans une véritable tradition religieuse.
Et pendant cette période de l'Avent, il y a des choses qui sont importantes, encore célébrées, notamment dans l'Est de la France. Il y a le marché de Noël qui apparaît à Strasbourg au XVIe siècle, la Saint-Nicolas,
Oui, 6 décembre. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de saints qui vont marquer ce calendrier de l'Avent et qui seront effectivement toujours des sortes de repères temporels pour d'autres activités. En particulier, il y a évidemment la Saint-Martin. La Saint-Martin, dans l'Est, elle est très très bien connue. C'est un jour où on mange une oie, mais c'est aussi un jour où on fait les contrats de location, les contrats, les baux pour les terres, etc. Il y a la Saint-Nicolas qui est extrêmement importante. Saint-Nicolas, au départ, c'est un évêque qui est sanctifié parce qu'il a sauvé des enfants, donc il va devenir un personnage extraordinaire. Puis, il y a le marché de Noël. Alors, le marché de Noël, eh bien, il est évident que, je dirais que dans la France médiévale, enfin, l'Europe médiévale et l'Europe renaissante, il y a toujours des grands rassemblements de foires, de marchés, d'échanges commerciaux. Et il est évident que là, ces marchés de Noël sont liés aux choses que l'on va acheter pour préparer ces fêtes de Noël. Et ces marchés sont vraiment apparaissent dans l'Est de la France. On dit que le plus ancien est celui de Strasbourg.
Et cela donc avant la messe de Noël, célébrée depuis des siècles, dans la nuit du 24 au 25 décembre.
Dis, maman, c'est quand la messe?
Bientôt, mon petit.
Dis, on va voir le petit Jésus, hein?
Oui, dans sa crèche.
Et son ami le bœuf et l'âne?
Et les rois nègres.
Mais pourquoi c'est pas plus souvent Noël?
Parce que c'est le jour où est né le petit Jésus, et il est né qu'une fois.
En ce jour de Noël de l'an de grâce 1819, réjouissons-nous, mes frères, du message d'universelle fraternité apporté par notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant que les petits-enfants s'approchent de la crèche.
20, 12, 13.
Ei, neixu l'infantum divi, Giga tejo es una mugeta, ei neixu l'infantum divin, cantatus una venamen.
Alors si la messe de Noël date du IVe siècle, il n'y a pas encore, comme on vient de l'entendre dans cet extrait de film dont l'action se situe au XIXe siècle, il n'y a pas encore de crèche, il n'y a pas encore de chant de Noël, tout ça apparaît beaucoup plus tard, Marie-France Noël.
Alors des chants, c'est certainement que dans les premières messes, il y a de la musique, mais ce ne sont pas tout à fait des chants. Par contre, il est évident qu'au Moyen-Âge, il y a une tradition qui est elle-même issue des mystères chrétiens qui se jouent justement pendant la période de la nativité.
L'ancêtre du théâtre.
C'est l'ancêtre du théâtre. Donc, il y a des spectacles qui sont donnés où il y a, évidemment, alternance de rituels religieux et de chants. Alors, l'Église va se fâcher un petit peu parce que tout cela, évidemment, permet une certaine liesse populaire.
D'autant plus qu'on danse, en plus.
Absolument, ouais. on danse dans les églises, donc ça n'est quand même pas tout à fait normal. Donc, on va sortir ces gens de l'église, de la nef, pour les mettre sur le parvis. Et il y aura toujours cette tradition d'une relation entre le clergé et les fidèles par ces chants de Noël. Chants de Noël qui prennent la forme de tropes au départ, qui sont des antiennes parlées, et puis qui progressivement vont se transformer en véritable Noël. Alors, au XVIIe siècle, il y a un phénomène extraordinaire, c'est que dans la littérature populaires dites de colportage, apparaissent des recueils qui sont celles des Bibles de Noël. C'est-à-dire que ce sont des chants que les gens vont reprendre pour pouvoir intervenir pendant la célébration de la messe. Et ils ont un énorme succès parce que justement, cela permet aux gens de chanter et de participer encore plus à la célébration de la messe. Ils ne connaissent pas tous les chansons, mais ils connaissent les airs. Et ce sont souvent des chansons qui n'ont rien à voir. Ça peut être des chansons quelquefois un petit peu grivoises, mais qui vont être transformées parler cette fois-ci en chant religieux.
Et puis ceux qu'on connaît le plus sont assez récents. Et vous le dites, Il est né le divin enfant. En fait, c'est un air de cor de chasse qui date du 18e.
Absolument, du 17e siècle. Ouais. Ben, voilà, c'est ce que je vous disais pour cette tradition des Bibles de Noël. C'est-à-dire qu'on récupère des airs que tout le monde connaît et on va mettre des paroles religieuses dessus. Et Il est né le divin enfant est absolument typique. C'est du cor de chasse, c'est l'air de la bizarde. Et bien voilà, cela devient Il est né le divin enfant que l'on vient d'entendre chanter en patois.
On ne peut pas les citer tous, on ne les entendra pas tous, mais enfin on en entend beaucoup dans cette émission. Et Douce nuit à Salzbourg en 1818, Mon beau sapin qui est également d'origine allemande. Les crèches également, ça c'est assez récent. Ça vient d'ailleurs de ces mystères dont vous parlez, parce que les crèches étaient vivantes au début.
Alors, il y a, je dirais, une tradition qui n'est absolument pas avérée, qui dit que la première crèche vivante, évidemment, a été faite par Saint François d'Assise quand il a célébré la messe avec des animaux, puisqu'il était le protecteur des animaux, avec des animaux et des fidèles en 1223, si ma mémoire est bonne. Simplement, tout cela n'est pas avéré. Mais il y a effectivement, comme je l'ai dit, toujours une relation entre fidèles et clergés pour la célébration de la messe. Et il y a, à partir du 15e siècle, dans les églises, ce qu'on appelle des crèches d'église, c'est-à-dire qu'on va installer des statues, des personnages qui vont évoquer la crèche. Et ces crèches vont sortir progressivement des églises pour se retrouver, je dirais, dans les milieux aristocratiques avec la mode extraordinaire des grandes crèches napolitaines, avec ces personnages en cire, avec des costumes absolument merveilleux, une foule de détails qui sont absolument extraordinaires et qui sont évidemment tellement chères, tellement importantes qu'elles ne peuvent être réservées qu'à des personnes qui en ont les moyens. Mais la crèche, elle va aussi apparaître sous deux formes populaires. D'abord dans le monde provençal avec la fabrication des santons.
En argile, oui.
En argile et qui aujourd'hui vraiment est très très répandue non seulement sur l'ensemble de la France, mais ces santons d'argile provençaux sont vendus à travers le monde entier. Et puis, il y aura, puisqu'on parlait tout à l'heure des crèches vivantes, il y aura dans certaines régions de France une tradition d'un théâtre parlé et chanté à propos de la nativité, que ce soit la crèche byzantine à Besançon, que ce soit il Principo Nissar, c'est-à-dire la crèche de Nice, ou que ce soit la pastorale Morel sur Marseille.
Et puis alors, donc, également une nouveauté, en tout cas quelque chose qui apparaît tardivement, parce que je suppose qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'endroit où le Christ est né, c'est le fameux sapin de Noël, Marie-France Noël.
Alors, le sapin de Noël, évidemment, un conifère qui est toujours vert, ne peut venir que de l'Est, puisqu'on n'en a pas tellement dans le Sud. Avant, c'était des oliviers, mais pas vraiment des sapins. Et ce sapin de Noël, il est lié encore à ces mystères médiévaux que nous avons évoqués tout à l'heure, parce qu'on plantait sur les parvis des églises un arbre qui restait toujours vert, parce qu'il était le symbole de l'arbre du paradis, de l'arbre de la connaissance. Et on lui mettait des boules rouges qui étaient évidemment en rapport un peu avec les pommes. C'était l'arbre à la fois du malheur et du bonheur perdu. Et on y mettait également des hosties puisque c'était aussi l'arbre du rachat. C'était l'arbre des péchés et c'était en même temps l'arbre du rachat. Et cette tradition du sapin, qui est très très bien établie en Europe de l'Est et dans la France de l'Est, va émigrer vers les États-Unis quand il y aura les grands courants migratoires du 19e siècle et va revenir. Mais il y a évidemment des tentatives d'introduction du sapin en France parce que il y a des princesses à la cour qui sont d'origine allemande, en particulier la princesse Palatine, la belle-sœur de Louis XIV, qui avait le souvenir de ces sapins illuminés qu'elle connaissait chez elle en Allemagne et qui aurait bien voulu lancer la mode à la cour de Versailles, mais ça n'a pas vraiment marché. Et puis, il y a un peu plus tard, la princesse Hélène de Mecklembourg, qui, elle, va faire le premier vrai sapin de Noël aux Tuileries. On dit que Marie Leczinska l'a fait une fois également sous Louis XV, mais vous voyez, c'est toujours par le biais d'influences étrangères.
Alors, sapin au pied duquel, évidemment, on pose ses chaussures avant d'aller se coucher, en espérant le passage d'un personnage qui utilise aujourd'hui des moyens de transport beaucoup plus modernes qu'autrefois. Écoutez ce reportage du MOUV, le 24 décembre 1997, à Roissy.
Votre attention, les enfants. Nous vous annonçons l'arrivée de l'avion du Père Noël. Soyez sages.
Il a un traîneau. Et il y a des cadeaux dedans. Et il est rouge et il a une ceinture noire. Et il a un chapeau rouge. Et la moumoute, eh ben, elle est blanc, un gros ventre.
Je suis le Père Noël de Laponie, Finlande. Je suis le vrai Père Noël.
Mais moi, j'y crois et j'y crois pas. Parce que mes copines, moi, je les crois pas trop parce qu'elles disent que les, c'est les parents qui déposent les cadeaux.
Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec les soleils.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire, Marie-France Noël? Ce ne sont pas les parents, bien sûr, qui mettent des cadeaux au pied de l'arbre de Noël. Et le Père Noël, il vient pas de Laponie. Il est d'origine turque, c'est Saint-Nicolas, justement.
Il y a plusieurs pères pour le Père Noël. Il y a évidemment le Saint-Nicolas, qui lui vient de Turquie, qui est l'évêque de Smyrne, qui va faire la carrière que nous lui connaissons maintenant sous cet aspect du Santa Claus, qui nous vient aussi des États-Unis, puisque vous savez que ce bonhomme qu'évoque les enfants un petit peu vieux, un petit peu rond, qui porte évidemment un pantalon et une veste bordée de fourrure rouge avec un chapeau pointu. C'est en fait une émanation d'une publicité de très célèbre soda des années 30 et c'est tout à fait différent. Mais il y avait plusieurs personnages qui étaient des distributeurs de cadeaux. Il y avait d'abord, évidemment, ce Saint-Nicolas que nous connaissons. Il y avait également le bonhomme Janvier. Il y avait la Befana en Italie. Il y avait Sainte-Lucie dans les pays du Nord. Et il y avait aussi le petit Jésus, Christkindl, qui lui-même dispensait des cadeaux aux enfants. Mais il est évident que toutes ces différentes figures extraordinaires de pourvoyeurs de cadeaux ont été réunies en un seul et unique que nous connaissons aujourd'hui, qui est le Père Noël. Mais moi, j'y crois au Père Noël. C'était mon papa.
Alors, écoutez, vous y croyez puisque vous vous appelez Marie-France Noël. Alors, les cadeaux aussi, c'est relativement récent. Les Noëls d'autrefois étaient des Noëls où c'était assez sobre.
C'était des Noëls religieux. Ouais. C'était des Noëls religieux où on ne faisait pas de distribution de cadeaux, puisque les cadeaux, on a parlé tout à l'heure des Saturnales. Les cadeaux, c'était les étrennes. C'était donc vraiment au changement d'année que l'on se faisait des cadeaux. Les parents offraient des cadeaux aux enfants, les enfants faisaient aussi des cadeaux aux parents. Et il est évident qu'il n'y avait pas de cadeaux à Noël. Mais au XIXe siècle, un certain nombre de grands magasins qui avaient envie d'avoir une plage de vente un petit peu plus importante que simplement le jour des étrennes, ont commencé à faire beaucoup de publicité pour que les parents offrent des jouets aux enfants aussi à Noël. Et c'est comme cela qu'est née vraiment cette tradition, des cadeaux spécifiquement aux enfants pour Noël.
Ça, c'est pour les enfants, mais le moment le plus attendu de Noël, eh bien, après la messe des chrétiens, les cadeaux du Père Noël, c'est bien sûr le repas de Noël, même et surtout quand on n'a pas de toit. France Inter, Gérard Courchel, un 25 décembre, pas comme les autres, avec les SDF.
Plusieurs dizaines de sans-abri ont passé le réveillon de Noël au 56e étage de la tour Montparnasse à Paris. Ils étaient les invités de l'association humanitaire Autre Monde. Ils ont dîné d'une terrine aux coquilles Saint-Jacques, d'une dinde au marron et d'une bûche arrosée de champagne.
On l'a dîné, on l'a dansé, on l'a chanté, on l'a rigolé. C'est vraiment quelque chose de magnifique.
Et maintenant, vous avez fait quoi, là?
Là, on va ouvrir les cadeaux, finir de boire le champagne et danser encore.
J'ai cru que c'était un canular, moi je savais pas. Si c'est un rêve. Et non, c'est pas un rêve. Le rêve, c'est réalisé. C'est du jamais vu pour moi. D'habitude, je le passe dans le métro. Ou tout seul dans un petit coin. Avec un ou deux cartons, une couverture, puis voilà. J'ai jamais été si heureux.
Petit bonhomme, où t'en vas-tu courant ainsi sur tes pieds nus? Je cours après le paradis, car c'est Noël à ce qu'on dit. Le Noël de la rue, c'est la neige et le vent. Et le vent de la rue fait pleurer les enfants. La lumière et la joie sont derrière les vitrines. Ni pour toi, ni pour moi, c'est pour nous.
Édith Piaf en 1951, le Noël de la rue, le repas de Noël aussi d'ailleurs qui est arrivé assez tardivement. Marie-France Noël, on faisait pas bombance. Vous dites même d'ailleurs que la bûche à l'origine ne se mangeait pas, c'était une vraie bûche en bois.
C'était une vraie bûche en bois que l'on faisait brûler dans l'âtre pendant ce fameux temps que l'on appelle les 12 jours qui vont de Noël au roi. Et cette bûche, les tisons de cette bûche étaient gardés dans la société traditionnelle parce qu'ils allaient servir à protéger la maison, à protéger les biens, à protéger les animaux. Et il est évident que les âtres devenant de plus en plus petits, quand les gens se sont mis à vivre vraiment dans des villes avec des petits fourneaux, il n'était plus question d'avoir des vraies bûches. Donc, eh bien, quelqu'un a eu l'idée de faire un gâteau qui avait une forme de bûche, et c'est resté un petit peu une tradition. Aujourd'hui, évidemment, les pâtissiers essayent de faire des bûches très tendances, très modernes, qui n'ont plus du tout aucun rapport avec cette bûche qui, elle, avait un rapport avec le solstice d'hiver, bien entendu.
Et à la fin d'un repas qui est vraiment un repas de famille. C'est le moment sans doute d'ailleurs où la famille se réunit systématiquement plus que à d'autres moments.
C'est
une fête de famille. Noël,
Noël est une véritable fête de famille. Alors il est évident que, comme on parle du repas de Noël, il faut se rappeler que pour la religion, nous sommes dans une période de maigre. Donc, il n'était pas question de faire un vrai repas avant la messe de minuit, puisqu'il fallait être à jeun pour communier, et que le repas avec des charcuteries, des viandes, se faisait toujours après cette fameuse messe de minuit, et souvent le 25 décembre. Le véritable repas, c'est le 25 décembre, pas le 24. Alors, pour aller à la messe, il fallait prendre des petites collations, des choses comme cela, mais en tout cas, ça restait toujours très très calme. Aujourd'hui, on a avancé l'heure de la messe de minuit. La messe de minuit est très souvent célébrée à 10 heures, de façon à pouvoir laisser les gens faire un véritable réveillon. Réveillon qui est un terme qui n'apparaît évidemment qu'au XVIIIe siècle.
Cela dit, Noël est célébré et fêté pour le repas, pour les cadeaux, pour l'arbre, qui sont des choses profanes, par les gens de toutes les religions du monde. C'est quelque chose d'universel. On revient presque au fond au Noël des origines. Tout le monde fête Noël, et pas seulement les chrétiens.
Oui, parce que derrière le message du Christ, né pour racheter les péchés du monde, il y a ce discours universaliste, et c'est un moment de trêve. C'est un moment où chacun se doit d'être bon pour les autres, et c'est vrai que ce message universaliste, lui, a vraiment conquis, je dirais, l'ensemble de la planète, et on aimerait bien quand même que de temps en temps les guerres s'arrêtent vraiment à ce moment-là.
Merci Marie-France Noël. Et en guise de conclusion, à la place de notre générique, je vous propose ce chant choral de Noël sur un air français du XVIe siècle. C'était une émission du 25 décembre 2008. Je rappelle que mon invité est l'auteur de Noël, Histoire et Tradition, publié aux éditions Ouest-France. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Joyeux Noël de Christian Caron, disponible en DVD chez UGC Vidéo. Le Roi des Rois de Nicolas Rey, disponible en DVD chez Warner Home Vidéo. Et enfin Jacou le Croquant de Stelio Lorenzi, édité chez TF1 Vidéo. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Henri Bérec, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Marie Jarros et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Song you.